Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ma petite croisade, elle est contre le néolibéralisme. Mmh. Que le libéralisme était une aspiration. Le néolibéralisme est une méthode de gestion. Le libéralisme était fait de leaders, de gens qui avaient une vista. Aujourd'hui, ce sont des managers. Notre président en France, mais votre premier ministre au Canada, ce sont des managers. Et comme ils ont appris dans leurs écoles de commerce ou d'administration que le monde pouvait se gérer par des concepts, ils sont redoutables quand on rentre dans le concept, en oubliant de voir sur quoi repose le concept.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Cette semaine, une question toute simple, bête, diront peut-être même certains. Et pourtant, vivons-nous dans le réel? Sommes-nous encore à même de le contempler, ce réel? Ou serions-nous plutôt dans ce qui ressemblerait, pour les cinéphiles, embarqués dans quelque chose qui nous approcherait de la matrice, de Matrix? Mon invité, Raphaël Rossello, se définit comme un banquier d'affaires réel, ça compte. Il est aussi docteur en sciences économiques, essayiste et à sa manière, on pourrait dire lanceur d'alerte. Son dernier livre, « La fin de l'insouciance » est paru aux éditions Mareuil. C'était en septembre 2022, une lecture que je recommande absolument. Raphaël Rossello, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être à notre microphone.
Mon plaisir.
L'insouciance, dans « La fin de l'insouciance », qu'est-ce qu'elle définit, cette insouciance? Où est-elle?
L'insouciance, je pense que c'est la caractéristique de l'enfance et que on est à l'âge adulte. Je parle de la civilisation, notamment occidentale. On est à l'âge adulte et quand on est à l'âge adulte, si on est réellement adulte, on est confronté à la réalité.
Réveil brutaux.
Le problème, c'est qu'on est justement dans un rêve, on maintient l'enfance. On maintient l'enfance pour pas qu'il y ait de réveil. Parce que s'il y avait un réveil, ce serait, pour beaucoup, pour ne pas dire pour la multitude, ce serait difficile. Je dirais la nomenclatura mondiale qui dirige, chacun à sa façon, veut maintenir les peuples dans ce rêve assez agréable. Mais malheureusement, il y a un principe de réalité, c'est que nous sommes assujettis, nous, les pauvres petits êtres humains, à la loi de la pesanteur.
De la gravité, donc.
De la gravité, oui, dans tous les sens du terme. Et si effectivement je lâche mon stylo, il tombe. Alors pour le moment, on le tient artificiellement
en apesanteur.
Mais voilà.
Le choix des mots est intéressant. D'abord, nomenclatura. Ça nous ramène à une époque qui n'est pas tellement oubliée, mais qui nous paraît lointaine, l'époque de nos amis soviétiques. Il y a une nomenclatura qui est aux manettes, selon vous?
Oui, et alors, ce qui fait qu'elle est difficilement classifiable, c'est qu'elle est très diverse. Vous avez des gens qui se prétendent de gauche, simplement sur des terminologies, mais qui en fait sont des contributeurs du système, du paradigme. Vous avez des gens de différentes ethnies, pour ne pas parler de mots qui fâchent aujourd'hui, qui effectivement ont des traditions tribales, religieuses, intellectuelles et autres. Et tout ça, ça forme un ensemble. C'est pour ça que je suis pas très complotiste. Parce qu'il y a une très grande hétérogénéité de ceux qui constituent cette nomenclatura, mais qui ont, et je pense qu'on va l'évoquer
mais
aujourd'hui...
Mais qui existe.
Alors elle existe, et surtout c'est qu'elle n'a pas d'objectif commun, elle a une méthode commune.
Et quelle est cette méthode?
Le management, la gestion.
L'opium moderne du peuple peut-être.
Oui.
Comme la religion l'était pour Marx en d'autres temps, est-ce que le management serait devenu, vous soumettez cette hypothèse, vous parlez de management, et soudainement je pense à l'opium du peuple.
Je suis, alors que je suis un libéral convaincu, je suis, ma petite croisade, elle est contre le néolibéralisme. Mmh. Et comme il y a une confusion, il y a un amalgame qui est fait, même par des gens très proches qui ne voient pas ma différence, je leur dis, il y a une très grande différence. C'est que le libéralisme était une aspiration. Le néolibéralisme est une méthode de gestion. Le libéralisme était fait de leaders, de gens qui avaient une vista. Aujourd'hui, ce sont des managers. Notre président en France, mais votre premier ministre au Canada, ce sont des managers. Et comme ils ont appris dans leurs écoles de commerce ou d'administration que le monde pouvait se gérer par des concepts, ils sont redoutables quand on rentre dans le concept, en oubliant de voir sur quoi repose le concept.
Ça nous amènera à parler dans quelques instants du réel, dans le monde de l'économie comme dans le monde de tous les jours. Et est-ce que le réel est réductible à des concepts? Voilà une question intéressante. Ouais. Mais vous parliez tout à l'heure de la fin de l'insouciance, donc ça nous ramène à l'enfance. Ouais. Moi, j'ai le sentiment, souvent aujourd'hui, qu'il y a une volonté appuyée d'infantilisation. C'est-à-dire de faire durer, si ce n'est pas l'enfance, l'adolescence, avec cette nouvelle expression, d'ailleurs, les adolescents que nous serions.
Absolument.
Comme si on ne voulait pas être adulte et assumer les responsabilités qui viennent avec.
Alors, c'est là où effectivement des complotistes, à mon sens, commettent une erreur. C'est qu'ils pensent qu'il y a une sorte de grand dessein
organisé.
Non, en fait, il y a un alignement d'intérêts. Et cet alignement d'intérêts, c'est que, nous sommes passés, nous l'Occident, est passé, de mon point de vue, mais Malouf dit la même chose, Rosa en Allemagne dit la même chose, enfin, je suis le seul dans mon métier, enfin, oui, dans mon métier, ça c'est
de
certain.
De banquier.
De banquier, alors ça c'est clair. De banquier d'affaires, le investment banker, d'accord. Et aujourd'hui, Le monde doit être en conformité avec les règles de management de l'investment banking, c'est-à-dire d'une efficience du capital. Bon. Donc, je suis un ouvrier du capital.
C'est votre métier.
C'est mon métier. Et c'est là où je dis à mes juniors, je dis, mais ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que vous sortez de 30 ou 40 ans d'un modèle qui a en apparence fonctionné qu'il va perdurer. Et on veut faire perdurer parce que l'on veut justement qu'il y ait cette insouciance qui est aspirée par ce que j'ai appelé la nomenclatura, qu'on appelle aussi la doxa, enfin peu importe, hein. C'est que on ne regarde plus le réel, on ne regarde plus la création de richesses qui ont été utiles à l'épanouissement de l'humanité, on parle de la valeur. Donc, et encore hier soir, avec un fonds international, etc., c'est « Ah oui, non mais Raphaël, c'est formidable ce que tu nous dis, parce que tu nous apportes des idées de création de valeur. » Et je dis « Non, 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 non. Vous allez l'interpréter, et j'en suis très content, comme étant un contributeur de valeur. Moi, c'est un contributeur de richesse. »
Et ces deux concepts radicalement différents.
Totalement opposés.
Créer de la richesse.
Oui.
Se fait dans le monde réel, j'ai l'impression, alors qu'on peut virtuellement créer de la valeur.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, l'outil qui permet de maintenir en apesanteur, de maintenir dans l'insouciance, de maintenir dans l'enfance, c'est que le concept, qui est en fait un tableur Excel, hein, permet de tout gérer. Je ne suis pas un coléreux, mais je me suis payé trois ou quatre colères dans ma vie. Et une des dernières, c'était au ministère des Finances en France. Contre un garçon qui pensait beaucoup plus vite que moi, qui était beaucoup plus rapide, beaucoup plus intelligent, mais qui n'avait pas mon vécu. Et comme il ne me regardait pas, il regardait son écran en me disant « Monsieur Rossello, ce que vous dites n'est pas vrai ». Donc ça m'a franchement énervé. Et je lui dis, parce que j'étais en présence d'un homme qui était un client dans le réel, avec 1500 employés en Europe, etc. etc. Et, Et je lui dis, mais venez demain matin à 7h03, la gare Montparnasse, je vous emmène en train. On fait 4 visites d'entrepreneurs dans la journée, on revient le soir.
Et vous me direz si le Excel colle toujours.
Absolument. Et il m'a dit, je n'ai aucune raison de... Merci de cette invitation, mais je n'ai aucune raison, j'ai toutes les informations. Donc en réalité, mais son cas est le même à Francfort, à Genève, à Toronto, à Singapour. C'est... Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je suis devant un monde absolument parfait. C'est la mondialisation heureuse, c'est la seule source pour le bien-être collectif, c'est l'unique moyen de maintenir la démocratie, etc., etc. Et moi, je leur dis, non, vous ne voyez pas toutes les fractures, vous ne voyez pas que la démocratie est en train de mourir sous nos yeux. Nous, les héritiers, nos parents, nos grands-parents qui se sont battus pour la démocratie, c'est fini tout ça. Puisque le rêve, c'est de faire fortune. Et alors, encore mieux, de faire fortune sur quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qui n'a pas de richesse.
Créer de la valeur.
Créer de la valeur.
Sans avoir à créer de la richesse.
Non, parce que pour créer de la richesse, oh, il y a de sacrées contraintes. De fiabilité, de respect de l'autre, enfin bref.
Déjà, il faut être, par exemple, à 7h03 à la gare, c'est-à-dire à l'heure.
À l'heure, déjà. Et même maintenant, il faut être là à 7h, parce qu'à 7h, ils ferment les portes.
Alors, comment expliquez-vous, justement, puis peut-être que votre démonstration fait suffisamment, je dirais, effet, mais que le réel, aujourd'hui, non seulement n'existe plus, mais est sciemment occulté. C'est-à-dire, parce que ça, c'est actif. Ignorer le réel, c'est une chose. Choisir de surmonter le réel, c'est autre chose.
La distinction que vous faites est réelle. Hein? Elle est vraie. Mais
si on parlait en québécois, je dirais, comment arrive-t-on à ne pas s'enfarger dans le réel, alors qu'il est généralement lourd et incontournable?
Mais c'est ça qui est... C'est pesant, le réel. C'est pesant. C'est désagréable. En fait, ce que je souhaite communiquer, grâce au temps que vous m'accordez, c'est de dire, nous, l'Occident, et je dis bien l'Occident, avons été capables, pendant longtemps, près de 200 ans, alors, c'est rien dans l'histoire de la planète ou de l'humanité, mais c'est quand même un temps très long. Nous avons réussi à faire que le réel qui était l'abomination, hein, c'était la besogne, c'était l'esclavage, c'était le servage, c'est pour l'immense majorité, soit devenu un vivre ensemble agréable pour quand même un très grand nombre. Il y avait toujours des exclus, il y avait des olvidados. Hein,
mais les oubliés.
Des oubliés, mais pour la majorité, pour Malouf, ça se situe dans les années 66, pour moi, ça se situe dans les années 70, pour le sociologue allemand Rosa, ça se situe dans les années 2000, peu importe. Je dirais, il s'est passé quelque chose entre 20 et 40 ans, ou 50 ans, où nous avons réussi à dominer le réel au sens de la besogne, au sens de la contrainte, de l'effort. Bon. Et pour moi, parce qu'il y a eu une conjugaison unique dans l'histoire de l'humanité de 4 facteurs. 1, le christianisme. 2, la science. 3, l'esprit des Lumières, on va dire de Voltaire. Et 4, Adam Smith et le libéralisme anglais. Ces 4 composantes sont totalement indissociables.
Pour l'Occident.
Oui, mais c'est le modèle occidental que cette nomenclature vend. Que vous alliez dans une école de commerce à Shanghai, ou à San Francisco, ou à Buenos Aires, the book est le même.
Il est anglo-saxon.
Il est anglo-saxon. Mais il est anglo-saxon ayant été conçu et maturé dans une civilisation qui était chrétienne. Mmh. Et pourquoi je parle de la notion chrétienne, c'est que il y avait ce rappel permanent qu'il y avait des contraintes et qu'une des façons de transcender les contraintes, nos contingences, qui est un mot que nous aimons bien, c'est l'autre. Si je n'inclus pas l'autre dans ma réflexion, dans ma vie, en fait, je ne suis rien.
C'est au cœur de la parole évangélique, je vous dirais.
Alors, et chose étonnante, c'est que c'est au cœur de la parole évangélique, mais c'est au cœur de la réalité humaine. Vous ou moi, vous nous mettez tout nus au milieu de nulle part, on va crever, etc. Donc, en réalité, c'est parce que nous avions cette culture, je dirais, de fond, même si on était franc-maçon, athée, etc. En fait, on avait ce bruit de fond qui venait de nos parents, grands-parents, etc. Donc, vous avez les quatre. Or, aujourd'hui, le christianisme en Occident est quand même à défaut. Pire, il fait l'objet des évangélistes qui l'ont transformé en un show business. Je me souviens justement à Toronto.
Particulièrement aux États-Unis.
Oui, mais moi je me souviens d'une stupéfaction ayant vécu à Toronto en ouvrant la télévision le dimanche matin et en voyant des miracles en live, comme ça.
Hein, c'est, À demande.
c'est quand même assez extraordinaire. Donc, celui-là, malheureusement, il est passé de mode. La science ne produit plus rien de majeur. D'accord ? Et il y a un pauvre professeur à Chicago qui s'appelle Robert Gordon et qui le dit. Il dit non, arrêtez. Et j'ai des amis dans des centres de recherche qui disent on est dans une vraie situation de crise. Parce que tous les progrès que nous avons pu maîtriser pendant 200, 250 ans, ben aujourd'hui, on ne comprend vaguement que 5% du cosmos. On est sur des hypothèses mathématiques, elles sont intéressantes, etc. Mais il n'y a plus vraiment de grandes étapes de la science.
Sinon même que l'on doit revisiter ce que l'on pensait être des vérités éternelles, par exemple, la science physique n'est pas exactement aujourd'hui celle que Newton pensait avoir arrêtée.
Absolument. Absolument. Et alors avec l'arrivée du quantisme qui fait que ben vous avez tous les marlous de la pensée humaine qui s'enfourguent dedans, puisque alors là c'est tellement délicieux de dire on ne sait même pas si tu existes ou j'existe.
Enfin, si nous conversons présentement.
Oui, absolument. Donc oui, c'est ça, on ne sait même pas si on est là en ce moment. Donc bref, j'ouvre la porte à toutes les... bon. Mais donc, christianisme, En déclin grave. La science, une sorte de plafond de verre. Alors, on se réfugie dans la technologie. Hein. Étienne Klein, d'ailleurs, le dit, hein, qui est quand même un grand vulgarisateur et habile et intelligent de la philosophie des sciences, et qui dit, non, en fait, on donne le sentiment à nos adolescents que la technologie va tout régler. Donc, ils n'ont plus besoin de se soucier, ils n'ont plus besoin de penser au labeur, etc. Le troisième, c'est les éléments des Lumières, de cette démocratie. Mais il y a un déclin, il y a une maladie. Il suffit de voir le nombre d'abstentionnistes, ou pire. En gros, en Occident, vous avez quoi ? 1 milliard d'êtres. Vous avez donc 500-600 millions d'électeurs. La moitié d'entre eux sont séduits par des idées à la Trump ou autre.
Parce qu'ils ne veulent plus jouer dans le film qu'ils ont vu depuis plusieurs
années. Mais parce qu'ils n'y croient plus.
Désabusés.
Ils sont complètement désabusés. Et on a commis l'erreur, là j'en veux à nos dirigeants, qui est de dire, il faut diaboliser ces partis. Non.
Pire, ces électeurs.
Ah oui, mais là on commet une erreur gravissime.
Celle de disqualifier une partie de la population.
Mais oui, mais on disqualifie 40%. 45% de la population ? Non, monsieur, non, madame, vous n'avez pas le droit de voter comme ça ? Non.
Je vous rappelle que Madame Clinton parlait de reprogrammer les électeurs fâcheux qui se sont prononcés pour Monsieur Trump.
Je l'ai oublié, celui-là, mais c'est exactement ça.
Donc, c'est très managérial. Si ça ne rentre pas dans le tableau Excel, il faudra faire de la reprogrammation.
C'est très managérial. Et en fait, quel est le problème ? C'est que plus on tape, plus vous créez l'effet inverse. Mais vous n'avez aucun sens politique, messieurs, mesdames. aucun. Donc, vous êtes en train, en nommant un gamin Premier ministre, simplement parce qu'il y a un autre gamin de l'autre côté. Je dirais notre président bien-aimé commet une erreur politique gravissime. Au moment où il y a tellement d'incertitudes, où il y a tellement d'angoisse, mais il fallait prendre un vrai routier de la politique. Non, je prends mon clone, mon MeToo. Je prends mon MeToo.
Au minimi.
Je prends mon minimi pour effectivement se battre. Mais le problème n'est pas là, c'est qu'il faut adresser les problèmes qui fait que.
Raphaël Rossello, vous étiez au ministère des Finances, oui, en face d'un jeune fonctionnaire compétent, peut-être plus diplômé que vous ne l'êtes.
Absolument.
Et qui ne voulait pas vous regarder tellement qu'il était occupé à contempler la réalité virtuelle sur son écran.
Oui.
Donc, il n'y a pas de raison pour que le président aujourd'hui se dise non, tiens, ça me prendrait une ou un routier,
oui,
avec de l'expérience. Puis j'aime bien routier,
oui,
parce qu'ils sont aussi souvent montrés du doigt, ces gens qui travaillent, qui besognent encore.
Qui besognent.
Mais non, on va prendre un communicant.
Oui.
Parce que la communication, c'est. C'est l'incarnation de la négation du réel. C'est-à-dire que nous avons une parole qui fait foi de tout.
Oui.
Performative. Si je le dis, ça existe.
Or, c'est là où on passe à mon quatrième point, la fin du libéralisme. Adam Smith n'a jamais envisagé que le monde idéal auquel il pensait soit dérégulé. Mais jamais. Donc, messieurs, relisez La richesse des nations. Il était pour une régulation forte. Donc aujourd'hui, ce nouveau président argentin revendique, mais c'est tellement facile. C'est tellement facile, je dérégule tout, donc tout va se régler. Non.
On a vu, je pense, en 2008... avec la crise des subprimes, avec un léger délai par rapport au moment où on s'est mis à déréguler dans les années 90, ce que cette situation pouvait engendrer.
Bien sûr.
Déréglementation de tout n'est pas nécessairement utile ou bonne.
Non, mais c'est une utopie. On a besoin de règles. Mais alors le problème, c'est que plus vous définissez les règles, plus vous créez des vides. Je m'explique. Je me suis trouvé une fois dans ma vie professionnelle confronté à un enquêteur et un juge. Et qui me disait, mais est-ce que vous avez rempli les coches, les cases, etc., etc. J'ai dit non, monsieur. Mais par contre, je sais une chose, c'est que le document que j'ai signé, il était bien. Donc je me moque de cocher les cases. Moi, j'ai une expérience, j'ai une expertise, et je vous dis que ce que j'ai fait était bien. Bon, alors il aura fallu plusieurs années pour dire, oui, en fait, vous avez raison, etc. Mais je cite cet exemple parce que ne nous affranchissons pas de nos contraintes qui étaient justement très chrétiennes. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'un code, j'ai pas besoin d'être un pharisien pour gagner le paradis, même au contraire. Même au contraire. Non, j'ai besoin de m'imposer à moi-même des règles. Et c'est ça, pardon pour les auditeurs, mais qui fait chier. J'ai pas envie, c'est pas cool. Donc ça veut dire que tu es comme papa ou comme grand-papa, etc. Non, je suis un homme moderne, j'aime le progrès. Mais je dis simplement que toute la machine qu'on a construite sur ces quatre points, elle est à l'arrêt, voire elle régresse depuis 20 ans pour certains, 50 ans pour moi.
Parce que vous êtes un banquier d'affaires et que l'économie vous intéresse, c'est une des choses que vous dites dans « Demain ». D'ailleurs, c'est peut-être aujourd'hui déjà, on ne le saurait pas. Ce « Demain » est ce qui nous contemple, parce que depuis 40 ans, 50 ans, c'est votre théorie, on est non seulement à l'arrêt, mais on sera en régression. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance est artificiellement dopée depuis les années 70 par la dette. Et on est devenu des addicts de la dette. On est complètement dopé à la dette. Mmh. Et elle masque la réalité, c'est-à-dire que nous n'avons non seulement pas progressé, mais on a reculé.
Alors, on touche là le cœur du système. Nous ne voulons pas la voir. Parce que nous considérons, nous, néolibéraux, progressistes, etc., que cette vision, elle est rétrograde. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Raphaël ? Nous, on est dans le progrès. Et quand je leur dis, mais quel progrès ? Quel progrès ? Progrès technologique, d'avoir une application qui permet de trouver son chien dans un parking ? Non, allons, non, non. Soyons sérieux. Aujourd'hui, vous avez... Preuve en est avec les électeurs. Vous êtes devant la souffrance. Ce que l'on avait cru éliminer revient. Donc, regardez cette souffrance. Parce que nous sommes dépendants les uns des autres. Il n'y a pas de progrès de société si la masse des oubliés grandit. Or, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça,
je vous dirais que tous les jours, c'est le spectacle que j'ai à Paris. C'est-à-dire qu'on contourne les gens qui dorment dans la rue. On se fait à l'idée que des tentes soient installées sur le pont que je traverse tous les jours. Ouais. Et on fait comme s'ils n'étaient pas là et que c'était acceptable, sinon normal.
C'est devenu une normalité. C'est devenu une normalité. Et alors...
Mais il n'y a pas de progrès si on accepte que ça est normal. C'est-à-dire qu'on est dans la négation, encore une fois, du réel. Si moi, je tire mon épingle du jeu, mais qu'au total, je tire cette épingle du jeu dans mon petit bateau qui vogue sur un océan de caca, pardonnez la figure de style, ouais. C'est malodorant et c'est horrible dans tous les cas de figure.
Bien sûr. Bien sûr. Mais n'oubliez pas cette astuce linguistique, mais qui marque profondément la génération qui est aujourd'hui en train de passer aux commandes. C'est que dans les années 85, un des mottos qu'il y avait dans Downtown Manhattan, c'est « Reality, perception is reality ». Donc, effectivement, maintenant, il faut communiquer. Parce qu'il faut s'adresser, à l'émotion, il faut s'adresser à la perception. Et ce qui fait que, moi, le papy boomer, je suis invité comme speaker au Surfing Bitcoin de Biarritz tous les ans.
Surfing Bitcoin de Biarritz, qui est un événement pour les cracks du Bitcoin.
Oui, qui est une messe. C'est une messe qui dure 4 jours, d'accord ? Où effectivement, je suis entouré de jeunes gens, et pas nécessairement jeunes d'ailleurs, mais ils sont absolument convaincus que le Bitcoin vaudra $1 million. Et comme je suis le représentant dans cette messe de celui qui va parler de l'économie réelle, je leur dis, ah ça, peut-être. J'ai tout vu dans ma vie, donc effectivement, même un tableau blanc qui n'a rien vaut au Guggenheim $1 million, donc effectivement, un algorithme peut valoir $1 million. Je ne peux pas lutter contre cette idée-là. Par contre, je vous mets en garde contre le rêve sous-jacent de cette réalité, qui est que la technologie va vous sauver.
Et nous soulager, encore une fois, du réel.
Et nous soulager du réel. Donc, de vos contraintes. Et c'est là où, effectivement, je les vois me regarder avec... soit un ricanement, vous voyez ce que je veux dire,
dubitatif,
mais c'est qu'en fait il se dit mais non, je veux pas rentrer dans cette logique là.
Et papy est largué.
Bon, ceci étant, il m'invite quand même. Alors il m'invite simplement et en disant, il y a des commentateurs,
un investisseur dirait que vous êtes leur edge.
Oui,
vous êtes l'or dans leur portefeuille. Ils sont tout Bitcoin, mais il y a un petit 3 ou 4% d'or dans le portefeuille, juste au cas.
Absolument. Absolument. Et sur ce thème-là, parce que vous avez cité l'or, c'est un truc très intéressant, et que j'ai vécu au siège de la Royal Bank of Canada, Place Ville-Marie à Québec.
À Montréal.
Il y a pas si longtemps que ça, une vingtaine d'années. Et la personne qui s'occupait du private banking est passée par Paris il y a 2-3 ans. On a déjeuné ensemble, etc. Et on a poursuivi une conversation qu'on avait commencée il y a 20 ans, où elle disait, quand il y a des high net worth people qui viennent immigrer au Canada, pour toutes les raisons agréables qui les attirent, c'est passionnant. Si c'est un Suédois, un Anglais, un Français, un Américain ou autre, en fait, ils nous transfèrent des... C'est même pas un portefeuille d'actions, c'est un portefeuille d'options. Je caricature. Mmh. D'accord. Si c'est un Vénézuélien, un Thaïlandais ou un Indien, ils nous transfèrent de l'or. Et souvent physique. Parce que l'or... La cotation de l'or à Londres tous les matins à 11h est totalement cadenassée. Elle est cadenassée parce qu'il ne faut pas que l'or redevienne réel. Donc, on laisse libre, la SEC, hein, la Security Exchange Commission, va laisser libre le Bitcoin, parce que ça, très bien, ça ne fait que conforter l'image qui n'est pas le réel. Par contre, l'or, non, il ne faut pas qu'il monte. Et c'est pas l'inquiétude qui crée la valeur, non. C'est le fait qu'on le cadenasse, par une technique d'ailleurs tout à fait réglementaire, hein, c'est que vous avez des market makers par rapport à ce qu'on appelle un marché par le carnet d'ordre. Ce qui veut dire que vous achetez de l'or, vous êtes non pas par rapport à quelqu'un qui gère vos achats, non, vous êtes par rapport à un vendeur.
Le market maker.
Et donc... Par cette technique-là, voilà, on a des petites variations, ce que j'appellerais ça des clauses de respiration. D'accord. Mais il ne faut pas que l'or retrouve sa valeur, non pas de refuge, mais d'étalon.
Parce qu'à ce moment-là, on serait dans un monde où, évidemment, un dollar, s'il fallait qu'il soit adossé à de l'or...
Il vaut zéro aujourd'hui, le dollar américain. Simplement, mais c'est la première armée du monde, c'est la première place financière du monde, c'est la première source de normes alimentaires, de good practice, etc. C'est eux. Il y a une force extraordinaire de la puissance américaine qui fait que sa monnaie, Elle est tangible, elle est incontestable. Mais sur un plan strictement mécanique, si vous comparez la masse de dollars en circulation par rapport à la richesse produite, j'ai pas fait le calcul, d'ailleurs j'ai pas les outils pour le faire.
Mais ça donnerait le vertige.
Oh bon, ça donnerait le vertige, je sais pas. C'est, le dollar vaut peut-être 2% ou 3% de sa valeur faciale. Enfin, je veux dire, c'est...
La valeur réelle.
Alors, quelle est la valeur réelle d'une monnaie? Elle est fonction, et le dollar en bénéficie, elle est fonction de la perception qu'en a l'autre.
Et de la confiance.
Or, effectivement, aujourd'hui, je me souviens, ayant été également un peu entrepreneur au Mexique, pour eux, c'était green money. Hein,
le greenback, c'est le vrai argent.
C'est le vrai argent. Et en plus, il y a de marqué sur le truc que c'est en Dieu qu'ils ont confiance.
In God we trust.
Donc, voilà.
J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Mais ce que vous dites, je disais, pourrait donner le vertige, c'est un peu ce contre quoi vous nous mettez en garde dans le livre, en disant il y aura un jour où il y aura une reddition de compte qui va se faire. J'ai eu à ce microphone, peut-être que c'est mon propre biais cognitif qui opère, mais Charles Gave et François Trahan, prévisionniste, qui, sans annoncer la fin du monde, disaient dans les deux cas, il va y avoir une réconciliation qui doit se faire entre justement le réel et ce qui ne l'est pas. Une reddition de compte.
Ouais.
Vous dites, ça fait 50 ans qu'on est en apesanteur. Pourquoi ça pourrait pas continuer encore 20 ans?
Alors, et c'est tout le message que je m'évertue à faire passer. L'être humain, oh, gros mot, l'être humain, l'être humain peut tout gérer.
Et s'adapter.
Une condition, qu'il en ait le temps. Or, quand on fait bien mon métier, et je considère que je le fais pas trop mal, l'obstacle contre lequel je me bats, c'est le facteur temps. Combien de temps, monsieur l'entrepreneur, avez-vous pour saisir une opportunité ou gérer un problème ? Et vous voulez le régler, ce problème, ou saisir cette opportunité, pour combien de temps? Étant donc un obsédé, mais tout le temps.
Oui, pour ceux qui nous écouteraient, si vous avez entendu à répétition un pic-bois, c'était le stylo de mon invité.
Absolument, je l'ai posé, voilà. Mais c'est pour marteler ce que je suis en train de...
Parce que ça vous tient à cœur.
Parce que, ah oui, ça me tient à cœur. Et ce qui me tient à cœur, c'est ce facteur temps. Et j'ai vu que vous aviez interrogé sur la mafia un personnage intéressant.
Commissaire Guéraud.
Commissaire Guéraud, et qui disait en substance à la fin, si on n'a pas le temps de gérer un problème, là, il devient dramatique. Ce ne sont pas ses mots, mais ça correspondait à ça.
Et il se trouve qu'il est dans des territoires adjacents à vos préoccupations, parce qu'il s'intéresse au crime en col blanc, à la criminalité en col blanc, à la collusion, et à ce que le politique est tout à fait perméable à ces facteurs parasitants que sont la corruption et d'autres choses.
Oui, mais... Alors, bon, ça, c'est son créneau, et il a raison, parce que je pense qu'en France et au Canada, on est pas mal lotis. Enfin, je veux dire, on est moins exposé, me semble-t-il. On est moins exposé à ces phénomènes de corruption. En tout cas, moi, dans ma vie professionnelle, je n'ai pas été réellement des indélicatesses ou des tentatives d'indélicatesse. Mais non, pas vraiment. Alors que justement, au Mexique... un de mes associés, qui était le directeur général d'une des grandes banques locales, disait « Non, là, il y a un combat de toutes les minutes contre ce genre de choses. » Je ferme cette parenthèse. Mais j'avais retenu de votre invité cette notion du facteur temps. Étant donné que nous avons le temps, pour revenir à votre question, puisque ça dure depuis 50 ans, pourquoi ça ne durerait pas encore 50 ans de plus ? Bien. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas, moi, aux commandes de ceux qui sont en mesure de continuer d'envoyer de l'air chaud pour que la montgolfière reste en apesanteur.
Parce qu'on parle d'une bulle, effectivement, une bulle de dette.
Et donc de valeur. Pourquoi les Américains continuent-ils de consommer ? C'est qu'effectivement... Leur plan de capitalisation dont ils reçoivent un État maintenant sur leur iPhone en permanence est, je dirais, entre, si je devais donner un chiffre, entre 2 et 3 fois ce qu'il devrait être en réalité. Quel besoin ai-je ?
Soyons clairs pour ceux qui peut-être n'auraient pas saisi. C'est donc dire que quand on regarde l'état de notre richesse ou celle qu'on pense
être,
c'est surévalué par un facteur de 2 ou 3.
Ouais.
Donc si on pense qu'on vaut 1 million, dans les faits, on vaut peut-être
300 000.
Donc, quand on dépense en se disant bah, « j'ai un million, j'ai les moyens »,
exactement.
Il faudrait se dire ben, « j'ai peut-être plutôt 300 000 le jour où on fera la reddition de compte ».
Exactement. Mais vous savez, c'est pas Raphaël Rossello qui le dit, c'est Warren Buffett. Il publie un indicateur. On peut aller consulter son indicateur. Et il dit « les valeurs sont surévaluées de 80%. ». Alors, tout dépend de quoi on parle. Si on parle de Tesla, je pense qu'on est à 90%. Alors les gens me disent « Mais non, ça a déjà baissé de 40%. » Je dis « Parce que effectivement, on était stratosphérique.
Bon. » C'est l'exemple que vous donnez souvent d'ailleurs de cette valeur qui est dopée d'on ne sait trop quoi et qui ne correspond plus nécessairement à la réalité de ce qu'un jour on pourra tirer les bénéfices attendus.
Oui, mais simplement parce que cet homme, qui a certainement un cerveau que je n'ai pas, hein, de rapidité, etc., il a une communauté. Et sa force, c'est que cette communauté, non seulement achète ses voitures, mais également conserve les actions de sa société. Ils ne sont pas vendeurs. Il y a tout le temps des pétouilles hein, sur les Tesla. Si ça arrivait chez les autres fabricants, bon, le cours de bourse en subirait les conséquences.
C'est un culte ?
C'est une forme de culte. Et qui est liée à ce que je disais précédemment sur cette certitude. C'est une des autres caractéristiques du néolibéralisme. Moi, j'avais des convictions. Et mes nouveaux camarades ont des certitudes. Et en fait, ils ont la certitude que la science et la technologie réglera les problèmes. Ils ont la certitude que, oui, on va aller sur Mars. Mmh. Bon, vous avez vu cet admirable film Don't Look Up ?
Oui.
Oui. Il y a un vaisseau qui part dans l'espace avec 1000 personnes qui vont se faire croquer par des... à the end of the day, qui vont se faire croquer. Bon. Mais il est là le problème. C'est qu'effectivement, ces adolescents disent « Mais non, arrêtons d'écouter ce vieil investment banker. Non. »
Mais c'est possible d'ailleurs que vous ayez tort. Hein?
Alors le problème, c'est combien de temps ?
C'est toujours ça. C'est comme annoncer un krach boursier. On se trompe pas l'annonçant parce qu'il arrivera inévitablement. Ouais. La question, c'est est-ce que je vais être hors du marché pendant les 10 ans où j'attends le krach?
Alors, il y a un métier qui est à côté du mien et pour lequel j'ai un très grand respect pour la qualité humaine des gens qui le font. C'est cette notion du private banking, de la banque privée, etc. Pourquoi? Parce que si je dis à un de mes clients, non, là vraiment ça sent mauvais, il faut vendre. Et si le cours de son portefeuille augmente de 10%, le type est fou furieux. Légitimement, en disant, mais tu m'as demandé de vendre alors que j'ai un manque à gagner de 10%. Bon. Et si par contre je ne le dis pas et qu'il perd 10%, je me fais engueuler en disant « Vous ne m'avez pas prévenu qu'il fallait que je vende. » Donc je suis dans une schizophrénie permanente où il faut que je regarde avec le plus d'outils, le plus d'informations ou autre, quel est le conseil que je donne.
Et on sait aujourd'hui en psychologie que l'on redoute davantage la perte qu'on a de l'appétit pour le gain. C'est-à-dire qu'entre deux stimulations, la peur de perdre est la plus prégnante, la plus forte.
Absolument. Mais, c'est la plus forte, mais comme on est dans un processus où on met de l'air chaud pour que le ballon monte, c'est là où je ne suis pas maître de la décision. Puisque le marché est totalement décorrélé de la réalité de la croissance, on y revient. Autrement dit, moi, ma recommandation est de dire, soyez... là encore, je vais faire une référence évangélique. Soyez les vierges précautionneuses qui gardent de l'huile pour que la lampe reste allumée.
C'est très Ayn Randien, ce que vous venez de dire, pour ceux qui ont lu La Grève. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Non, mais je...
Mais c'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire d'un monde où, éventuellement, l'absence de compétences fait que la dernière des ampoules à Manhattan s'éteint. Il n'y a plus rien. Enfin, c'est une caricature que je fais.
Non, non.
Mais cette idée qu'on soit allé au bout des compétences, qu'on ait attendu par la pensée magique solutionner les trucs, et que les gestionnaires qui sont dans les modèles virtuels, aux manettes, ben, nous mènent collectivement à un monde où finalement...
Alors, c'est là,
on échappe.
C'est là où je suis, moi, schizophrénique. C'est-à-dire que j'ai une telle confiance dans la capacité humaine. Elle est extraordinaire. Mais elle est entravée par le fait qu'on ne cesse de lui dire « ne te soucie pas ».
« Ne t'inquiète pas ».
« Ne t'inquiète pas ». D'ailleurs, il y a de la croissance. Et comme, je dirais, le citoyen du monde voit que tous les ministres des Finances de toutes les grandes économies du G20, etc., ne parlent que de ce mot de « croissance », le croissance, ça fait référence à l'enfance qui passe à l'adolescence. C'est « je crois ».
On grandit.
On grandit. Demain sera mieux qu'hier. Mensonge de notre président bien-aimé. Et enfin, il sait, ou alors il est stupide, mais ça je ne le pense pas, il sait que demain ne se pourra pas mieux qu'hier pour la génération d'aujourd'hui. Si déjà on conserve le niveau où on est aujourd'hui, je considère que c'est extraordinaire.
Donc, quand on nous parle de décroissance et qu'on invoque cette décroissance de manière vertueuse, peut-être qu'au-delà même des enjeux de vertu et de climat qui appellent cette décroissance, on n'aura de toute façon pas le choix, c'est ce que vous dites.
Alors, restons là-dessus. Parce que c'est effectivement, je dirais, il y a tous les aspects sociétaux, philosophiques, croyances et autres, mais en réalité qui aujourd'hui repose sur la conviction partagée par l'immense majorité qu'il continuera d'y avoir de la croissance. Et donc s'il continue d'y avoir de la croissance, qu'elle soit verte, bleue, rose, on s'en moque, qu'il continuera d'y avoir de la croissance, donc je n'ai pas besoin de me soucier. Puisque l'ensemble de la machine va de toute façon m'amener dans un point de plus grand confort, de plus grand plaisir de vie que celui que mes parents ont vécu ou que même moi j'ai vécu. Bien. Quel est mon message? Et ce qui est passionnant, c'est que autour de moi, des gens qui me connaissent intimement me disent « Ah oui, toi t'es contre la croissance ». Je dis « Mais vous m'avez entendu dire que je suis contre la croissance ?» J'aime cette notion. Elle est belle, elle est agréable, elle est motivante. Non, je dis simplement que elle n'existe plus. Parce que...
Sinon qu'artificiellement.
Oui. Parce que vous êtes tous habitués à dire que la croissance est à crédit. Voilà, dans vos dîners en ville du vendredi soir, vous dites « bon oui, la croissance, elle est forte, oui, mais certes, elle est à crédit ». Et moi, je vous pose simplement la question, et s'il n'y avait pas de crédit, qu'est-ce qui se passe? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu enlèves la notion du crédit depuis 50 ans, et si tu enlèves la notion du crédit depuis 50 ans, nous sommes en récession. Et alors là, effectivement, les gens... J'ai un bon ami qui m'a dit « Mais tu me jettes dans un abîme de perplexité. » Je dis « Oui, bien sûr, mais c'est ça ce que je veux. » Il s'appelle François. « Mon cher François, mais c'est exactement ça que je veux. Tu es un entrepreneur, tu es père de famille, etc. Anticipe. » Et il me dit « Oui, mais c'est extrêmement difficile. »
Mais aujourd'hui, donc, les créateurs de richesses,
oui,
et non pas de valeurs,
oui,
pour ceux qui nous,
oui,
suivent dans notre conversation, sont bien malmenés par ceux qui gèrent de la valeur. Et le peu que nous ayons de croissance dépendrait de créateurs de richesses de moins en moins nombreux.
Oui, mais alors là où mon métier devient un métier... En plus d'être un métier de psychologie, d'outils financiers et autres, je deviens un pêcheur de perles. Enfin, j'ai toujours été un pêcheur de perles. Le seul problème, c'est que quand je pêchais une perle dite baroque, donc avec des formes tordues, etc., il y avait un marché. Il y avait des gens qui disaient « Ah oui, c'est beau !» Aujourd'hui, mes clients qui achètent mes perles veulent qu'elles soient toutes calibrées, qu'elles rentrent toutes dans les critères du tableur. Donc effectivement, il y a et il y aura toujours des sociétés en croissance. C'est une évidence. Le seul problème, c'est que nous regardons tous, nous, banquiers d'affaires, quelles sont les sociétés qui peuvent répondre à ces critères, alors que j'ai certains de mes clients qui sont de très belles sociétés, qui peuvent assurer un rendement tout à fait honnête au capital investi, etc., mais qui sont des entreprises qui recherchent une pérennité. Ah non, non, ça, non, non.
On s'en fout.
Ça, on s'en fout. Et donc, moi, mon message est de dire, vous avez bénéficié, pour certains de nos auditeurs, vous avez bénéficié de gains en valeur très significatifs dans les 40 dernières années. Mon message n'est pas de dire c'est fini. Je dis faites très attention et essayez aujourd'hui plutôt de préserver. Ah bon, et alors on fait comment? Je ne vais pas vous donner des conseils de gestion puisque je vais me faire arrêter par la police financière comme quoi, parce que je n'ai pas le droit. Okay. Bon. Je peux dire simplement qu'il y a des éléments de stabilité d'un patrimoine et qu'il faut diversifier. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des valeurs justement dans la technologie qui sont voilà, à leur maturité.
C'est pudiquement dit.
D'accord.
Tout à l'heure, j'ai envie de revenir à la description que vous avez faite du néolibéralisme. Oui. Qui n'est pas du tout la même chose que le libéralisme, qui serait peut-être même une forme de pathologie qui gangrènerait notre économie et peut-être même notre qualité de vie sans qu'on le sache.
Oui. Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'on sort de ce cercle vicieux?
Alors, soit on y sort par la contrainte, et c'est ce que je redoute, soit on en sort. Je suis un peu utopiste quand je dis ça, pour ne pas dire totalement utopiste, mais j'ai envie d'être utopiste. Moi, l'économiste, le banquier de l'économie réelle, j'ai envie d'être utopiste. En disant, nous avons les moyens. Vous, ce qu'on est en train de faire, par Internet, par les réseaux et autres, on a les moyens d'informer de façon différente de la doxa, de la nomenclature. De deux choses l'une, soit vous dites « Oh ben c'était intéressant cette conversation, mais en fait, j'ai rien appris. » Très bien. Soit nous arrivons à créer un doute. N'ayez pas la certitude que vous avez apprise à Harvard, à la London School of Economy, à Sciences Po, à Bocconi, etc. Ayez ce doute. Ayez ce doute que j'essaye d'impliquer, d'instiller à mes juniors. Dans notre métier, il y a une règle que certains de nos auditeurs connaissent, c'est que pour définir la valeur d'une entreprise, on va regarder quel est le free cash généré à l'infini. Donc il faut mettre un taux de croissance à l'infini. Ce taux de croissance, selon les sociétés dans lesquelles on est, on va le mettre entre 0,5 et 2%. Là encore, de Chicago à Singapour, tout le monde se met d'accord là-dessus. Et moi, je dis à mes juniors, mais moi, commence à moins 1, moins 0,5, 0, 1,5 et 1. Que ton tableau de sensibilité ne parte pas de 0,5, mais de moins 1. Ah ben non, 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 patron, non, ça ne se fait pas, ça. S'il te plaît, fais-le. Moi, je connais le résultat. Et à chaque fois, j'ai un réflexe d'étonnement, parce qu'il suffit de changer trois cellules sur le tableur, et puis, ah ben tiens, c'est curieux, je pensais qu'on arrivait à zéro. Je dis non. Non. T'as réduit ta valeur théorique. mais tu n'arrives pas à zéro. C'est pas vrai. Donc le fait d'intégrer dans nos modèles qu'il y ait une récession latente, une décroissance, das ist. C'est pas, c'est, vous avez utilisé le mot que j'ai une théorie. Ah non, moi j'ai zéro théorie. Hein. Je dis simplement
des intuitions.
Non, non, c'est statistique. C'est
cela est.
Cela est. Cela est. Prenez les statistiques de la croissance américaine depuis 50 ans. Prenez les mêmes statistiques de la croissance de la dette en pourcentage du PNB, du PIB. Si vous faites la soustraction, vous êtes en récession. Alors, je sais que c'est un calcul, il est beaucoup trop grossier pour les têtes savantes qui nous dirigent, mais ça vous donne un indicateur.
Mais si on ne prend justement pas le temps de s'y préparer et que le réel décide brutalement de cogner à la porte?
Là, c'est la cata. Mais c'est la cata, pourquoi?
Mais vous la contemplez, la cata, parce qu'elle est possible. Tout optimiste que vous êtes, et
ouais,
je le suis aussi.
Oui, mais moi je suis un optimiste de combat, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas crédule. Quand les gens me disent « mais t'es pas optimiste », je dis « mais je suis un optimiste farouche ». Je dis simplement que quand on me dit « demain il fera beau », je dis « peut-être ». Non, demain il va faire beau. Non, je dis « peut-être ».
Et un scénario cata, c'est quoi?
Ben, il est social, il est civil. C'est les guerres civiles. Mais il y a une anecdote aujourd'hui qui... Enfin, c'est pas... Qu'est-ce que je dis, une anecdote? Il y a un fait, mais monstrueux. C'est Gaza et le Hamas. Comment peut-on imaginer, pouvait-on imaginer, et continuer d'imaginer, qu'en maintenant 2 millions de personnes à un niveau de vie moyen de 0,8%, enfin, non, pas zéro, 8% du revenu moyen de ceux qui sont de l'autre côté du mur. Comment ne pas imaginer qu'à un moment ou un autre...
Ça explose.
Ça explose. Or, ils sont en train... Je ne sais pas comment il fallait gérer la crise. Hein. Mais je dis simplement... Et d'ailleurs, j'ai trop d'amis israéliens qui sont contre Netanyahou parce que... Mais il est en train de créer, pour les 30 ans qui viennent, une situation ingérable. C'est plus de 2000 combattants qu'il va avoir en face de lui, mais c'est 30 000.
C'est amusant, sinon inquiétant, que vous fassiez le parallèle entre ce scénario d'horreur pour les populations qui sont directement interpellées et ce qui pourrait arriver dans un monde, le nôtre, où les écarts de richesse sont peut-être pas aussi violents, mais quand même...
Oui, mais alors, perception is reality. C'est-à-dire que pour un enfant de 18 ans, qui est effectivement, qui se dit « je vais faire un peu de négoce de drogue ou de je sais pas quoi, ou de cigarette parce que je suis à Andorre, ou peu importe. Bon. »
Ou fortune avec le bitcoin.
Ou fortune avec le bitcoin. S'il paume les 3000 euros qu'il a réussi à mettre de côté. Mais vous imaginez la frustration de ce type? Mais c'est une grenade dégoupillée. Donc si vous n'avez pas les moyens de le réinsérer dans une dynamique d'espérance matérielle qui soit conforme à la réalité, on est en train, à la chaîne, comme les saucisses dans les abattoirs de Chicago, hein, à la chaîne, on est en train de produire des bombes humaines de gens qui sont frustrés.
All bets are off, comme on dit à l'Académie.
Oui.
Vous avez souligné que des deux crises, la crise climatique, était moins à redouter, à tout le moins à court ou moyen terme, que la crise sociale.
Absolument.
Et pourtant, j'ai l'impression aujourd'hui que ceux qui sont à nous gérer... Ceux qui regardent le tableau Excel s'arrangent très bien avec l'idée que la crise climatique occupe tout l'espace et occulte les risques de crise sociale.
Mais c'est formidable la crise. Enfin, c'est monstrueux ce que je dis, parce qu'on on le voit, je veux dire. Ce n'est pas leur faute. C'est la faute des autres. C'est la faute de ces sales Chinois qui font encore de l'électricité avec du charbon. Ce sont, enfin, je veux dire, donc nous, on va être les bons élèves, on va faire tout ce qu'il faut en matière de normes, etc. Mais je cache, on revient à ce problème, je cache les réalités. Mais non, mon petit Hamoud ou Henri ou Stéphane
ou Raphaël.
Mais non, t'inquiète pas, on est en train de gérer la problématique pour toi et tes enfants et tes petits-enfants. Attendez, entre-temps, que se passe-t-il quand on va s'apercevoir que la sécurité sociale, que l'enseignement, que l'entretien des routes, que tout ça dépend en fait d'une création de richesse qui, elle, régresse réellement. Et comme on va être obligé de réduire quand même un petit peu la voilure en termes de création de monnaie, tu fais des taux, peu importe, etc. Alors que va-t-il se passer ? Et ça, je suis mais stupéfait que dans mon entourage le plus proche, eh ben on ne veut pas en entendre parler.
Des gens intelligents, surdiplômés, qui ont navigué dans les eaux traîtresses du monde des affaires, incapables de faire une petite addition finalement basique.
Non, parce que
2 plus 2 devrait faire 4 et non pas 8 parce qu'on ne crée pas de la valeur, on fait de la mathématique basique.
Mais alors, comme je souhaite être gentil avec ces gens-là, je leur donne plein d'excuses.
Ils vous fréquentent encore les vendredis soirs et samedis?
Alors, il y en a beaucoup qui le font par curiosité. Et bien sûr, pour dire, tu as commencé à faire des essais incendiaires. Je dis non, je n'ai jamais été incendiaire. Il y a déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans, il ne s'est rien passé. La bourse est au plus haut. Donc, tu as tort. Et je leur dis, mais non, lisez-moi réellement. Je vous dis simplement d'être prêt. Je vous dis simplement...
Vous êtes, si on était dans l'univers des Américains, un prepper. Ceux qui se préparent pour l'apocalypse, évidemment, je mets de gros guillemets, je vous fais un clin d'œil en le disant.
Ouais, ouais.
Mais dans le fond, ce que vous dites à tous, c'est faites gaffe.
Faites gaffe.
Ce à quoi on est habitué n'est pas nécessairement ce à quoi on est destiné.
C'est parfait. C'est parfait. Be ready. Be aware. Alors, j'ai des amis en Amérique du Nord qui m'écoutent, avec lesquels j'échange. Parce que, en fait, ce que j'ai résumé, etc., mais moi, ça fait 40 ans que je leur dis. Mais que je le disais avec moins de précision qu'aujourd'hui. Je disais, mais vous ne trouvez pas que... Enfin, je posais des questions. Ah oui, t'as raison, etc. Bon. Aujourd'hui, je dis quoi ? Mais vous pouvez être des woke. C'est votre liberté. Vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. C'est votre liberté. Mais vous considérez « you take for granted » Vous considérez comme acquis que le substrat économico-social, sanitaire, machin, etc., vous êtes acquis.
Et c'est gagné.
C'est gagné. Ça y est, c'est fini. Non, tu peux avoir un matin où tu n'as pas d'eau courante à ton robinet. Mais pourquoi ça ? Parce que dans un pays comme la France, il y a 100 000 ou 200 000 personnes qui se lèvent le matin, tôt, dans le froid, machin, pour, etc. Et ben, s'ils ne sont pas effectivement traités convenablement, humainement, ils peuvent dire, bon, ceux qui sont au-dessus, moi je ferme la vanne.
Comme des agriculteurs peuvent dire des réglementations à l'infini qui rendent mon boulot impossible.
Mais surtout, c'est qu'elles sont injustes.
Moi, je rends méchant.
Ouais. Non, mais moi, en fait, pour moi, je ne suis pas rentré dans le détail de cette crise, mais, ou des crises qui sont en train de perler à droite.
Mais elles sont toutes liées, en fait, parce que si c'est vrai de ceux qui apportent l'eau au robinet, c'est vrai de ceux qui apportent le meilleur dans nos assiettes.
Absolument. Mais qui est la vérité aussi des aides-soignants. Enfin, je veux dire... Et alors... De grâce, oublions d'opposer le système anglo-saxon au système de l'Europe continentale, des dépenses obligatoires. Dans les deux cas, elles sont obligatoires.
C'est-à-dire ?
En France, vous êtes obligé de cotiser à une retraite. En Amérique du Nord, vous êtes obligé de cotiser à un plan d'épargne. Mais at the end of the day, qui va créer la richesse permettant à votre plan d'action de vous assurer une retraite? Ce sont les ouvriers, les travailleurs, les ingénieurs, etc., dans 20 ans.
Qui créeront de la richesse et non pas que de la valeur.
Oui, qui créeront de la richesse pour que vous, pensionnés nord-américains, vous allez recevoir. Bon. Pour les dépenses de santé, la même chose. On gère, nous, en France, par la contrainte, ce qui est géré par l'adhésion aux États-Unis. Mais le système de santé américain est le plus inefficient du monde.
Aucun doute. Près de 20% du PIB consacré à la santé, ça ne tient pas la route.
Mais attendez-moi, il y a un chiffre que j'aimerais partager avec vous. En France, en Suisse et au Japon, il faut à peu près, 3 000, 3 500 entre euros et dollars pour que chaque citoyen ait une santé de très grande qualité. Aux États-Unis, vous avez à peu près 40% de la population qui est entre Medicare, etc. Mais les 60% qui cotisent à des plans de santé dépensent près du triple.
10 000 $.
8 500, 9 000 d'après les derniers chiffres de l'OCDE. Wow. Et on me dit que on est mauvais gestionnaire. Mais non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que...
Mais ça dit une chose sur l'économie de marché, parce qu'on associe les États-Unis à la plus grande économie de marché. Or, c'est dysfonctionnel.
Oui, vous savez qu'il y a plein de recherches en ce moment pour démontrer qu'effectivement, l'Amérique du Nord n'est plus une économie de marché. Enfin, je veux dire, il y a de la recherche fondamentale sur ce sujet qui est faite. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme ça des certitudes, mais qu'on voit en France. Hein. Ah non, mais si c'était géré par des privés, ça serait mieux. J'en sais rien, mais au vu de ce que je vois aujourd'hui, je ne pense pas.
Il y a un jour où les marchés obligataires, parce que c'est eux qui nous permettent d'emprunter à l'infini, vont bouder. Vont dire, ben non, il y a trop de risques. Donc, si vous voulez emprunter un point de croissance, donc beaucoup de milliards de dollars, ça va être au prix élevé, à 5, 6, 7, 8 % comme... Ben, les Grecs, à une époque, devaient le faire pour financer une dette qui était considérée par tous insoutenable. Ça peut arriver que le marché obligataire décide de dire non.
Le problème de l'univers de l'argent, c'est qu'on se tient par la barbichette tant qu'on peut en être gagnant. Mais comme l'ont fait admirablement tous les films qui sont sortis au moment... après la crise des subprimes, il y a un moment où il y en a un qui dit moi, je vends tout. Donc, en fait, il y a un consensus non, il faut que ça reste jusqu'au moment où un gros fonds de pension va dire j'ai trop de risques, je vends. Et là, vous avez un effet d'entraînement. On a géré cet effet d'entraînement mondialement en ouvrant les vannes du crédit. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en dehors des États-Unis, comment puis-je aller chercher du crédit? Mais on le voit avec les agriculteurs en France. On leur a redonné des centaines de millions d'euros qui n'existent pas.
On a acheté la paix.
On a acheté la paix avec de l'argent qu'on n'a pas.
Ça m'amène à une menace que vous avez déjà montrée du doigt en cas de vrille vertigineuse, la possibilité d'exproprier les épargnants.
Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne comprendraient pas?
Alors, déjà, la Constitution américaine prévoit de pouvoir répudier tout ou partie de sa dette. Donc, les États-Unis d'Amérique ne seraient pas dans l'illégalité constitutionnelle si un jour ils disaient 20%, 30%.
Pour tout ou partie.
Pour tout ou partie. Bon, déjà, il faut le rappeler quand même. Hein, c'est... Dans des pays comme la France ou l'Allemagne, ben, ça veut dire que... On gère en France, j'ai plus les chiffres, mais on va dire 3 000 milliards d'assurance vie au moment où on a 3 000 milliards de dettes. Bah, la tentation, s'il faut quand même baisser un petit peu, de dire vous êtes un citoyen français, je vais aller taper dans votre assurance vie. Aujourd'hui, quand j'évoque cette idée, c'est saugrenu, mais arrêtez, Stéphane Bureau, d'inviter des gens incompétents, etc. C'est impossible. Jusqu'au jour où un matin, vous appelez votre banque, enfin, on ne peut plus l'appeler maintenant, mais vous consultez sur l'application, et « Ah tiens, mais je pensais que j'avais 100, et je vois que j'ai 80. »
C'est arrivé à Malte, si je ne me trompe pas.
Bien sûr, qui est dans la communauté européenne. On oublie.
Mmh. Un Malte passager, quoi.
Donc, en fait, c'est parce que dans ce confort, je dirais petit bourgeois, dans lequel on nous entretient depuis des décennies, ce genre de scénario ne peut pas se présenter. Donc à partir du moment où les sachants, ceux qui savent, pas toi Raphaël, non, notre ministre de l'économie et des finances, qui lui est un homme argumenté, qui a de l'information, puisque lui dit qu'on ne pourra jamais le faire, comment toi tu oses évoquer ça?
Vous aimez d'ailleurs souvent parler de ces sachants qui ne créent aucune richesse.
Ah ben oui, mais quelque part...
Ou qui n'ajoutent rien. Sans valeur ajoutée.
Alors, le fait de ne pas apporter une valeur ajoutée, parce que je suis le petit-fils d'un haut fonctionnaire, non, il y a la fonction publique a une utilité.
Je parlais des sachants, moi.
Oui, oui.
C'est une autre catégorie, peut-être.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des sachants qui sont là pour effectivement préparer les esprits à des éventualités. Et c'est là où je leur en veux. J'ai été prof à la fac au début de ma vie, pendant 5 ans. J'ai adoré ça. Mais c'est votre devoir moral, absolu, de leur donner des outils qui intègrent des hypothèses. Mon père, qui était un matheux et un physicien, il reprochait toujours aux gens en disant « Je suis malheureux parce que je sors d'une réunion où les gens n'ont pas admis une hypothèse, n'ont pas envisagé une hypothèse. » Je me retrouve dans les gènes de mon père en disant ça. Intégrez dans votre logiciel cette hypothèse. Je vous donne les outils éventuellement pour aller vérifier cette hypothèse, mais... Ne la rejetez pas d'un revers de la main. Il y a un phénomène de démission mondiale, de l'emploi, etc. On le voit, tout le monde vous en parle. Hein, de votre kiné, votre épicier, votre chauffeur de bus, tout le monde le dit. Bon. Quand on dit ça à notre ministre français des Finances, texto, il a fait ce geste en disant « foutaise ». Non, monsieur le ministre. Non, monsieur le ministre. C'est un sujet gravissime, parce que justement, il est sur tout ce que vous ne voulez pas envisager, et parce que vous ne voulez pas l'envisager, vous avez des gens qui vont aller voter dans des extrêmes, parce qu'ils ne vous croient plus. Alors je sais qu'il faut maintenir l'insouciance dont on parlait au début, nanana, et donc il ne faut pas donner grip, il ne faut pas donner d'adhérence à ce message. Eh bien, il faut le faire avec intelligence, mon bonhomme, il faut le faire avec... Mais il faut le faire.
Vous proposez au fronton peut-être d'une nouvelle République 3 mots-clés, frugalité, honnêteté, transparence.
Ouais.
Pour être capable de négocier le virage.
C'est trois
vertus très difficiles à appliquer dans le monde aujourd'hui. Hein.
Elles sont inaudibles. Elles sont inaudibles. Moi, je préfère celle que j'ai découverte il n'y a pas très 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 longtemps. C'est vous voulez être heureux, continuez de désirer ce que vous possédez.
Ça serait déjà bien. Hein.
Wow. Mais surtout, étant un amoureux farouche de la vraie liberté qui est pour moi l'autonomie.
Je suis avec vous, mais à 102%. Je crois que c'est la clé.
C'est la clé. Or, vous considérez que vous êtes libre, mais vous n'êtes pas autonome. Vous êtes dépendant de vos réseaux. Vous êtes dépendant de l'opinion de vos pères, etc. Non, vous n'êtes pas libre. Vous avez cette petite couche marketing, mais non. Soyez autonome. Et pour être autonome dans mon métier, c'est extraordinaire. Les gens veulent rentrer mon métier, qui est un métier passionnant, hein. Parce que vous accompagniez des boulangers, des fabricants de logiciels, du textile technique, etc. Vous tombez sur des problématiques, vous trouvez des permanences, parce qu'il est italien, il est grec, il est américain, etc. Et on veut standardiser cette pensée. Alors que la richesse de ce que j'ai vécu, et que je continue par chance de vivre...
C'est l'hétérogénéité,
c'est la différence, c'est l'autre. Et ça, eh ben voilà, on nous a mis dans une boîte.
Continuez à désirer ce que vous avez.
Ouais.
Ça fonctionne assez bien avec la première image que j'ai eue de vous, descendant du taxi, avec votre amoureuse. Et j'ai dit, mais vous avez l'air d'un couple amoureux.
Absolument. C'est la fierté de ma vie, ça.
Basique, déjà, c'est pas mal.
Ouais, c'est...
On a oublié de dire quelque chose dans cet entretien?
Waouh, je pense que non.
Raphaël Rossello, ce fut un plaisir que de vous avoir avec nous. Vraiment, j'étais content, honoré que vous acceptiez l'invitation. Conversation ample.
Un plaisir totalement partagé.
Merci. Si vous avez aimé, partagez l'épisode, ça nous aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne sur la plateforme qui est la vôtre, votre plateforme de prédilection, que ce soit Apple, Google, Spotify ou encore YouTube, Rumble, Odyssey. Vous les connaissez. Vous pouvez aussi nous trouver sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. À la réalisation, Jeanne Croteau, c'est Marianne Grenon qui est à la recherche. Stéphane Bureau au microphone. Encore une fois, Raphaël Rossello. Merci.
Merci à vous.